La chronique de Marc Boilard, présentée par le Groupe Saillant et ses 5 concessions. Option Subaru, Laurier Mazda, 5 fois Toyota, 5 fois Hyundai et Saillant Autocrédit.
15h06, Marc Boilard, bonjour!
Salutations à vous tous!
Comment ça va?
Très bien, très très bien.
Hey, juste avant que tu commences, parce que je sais que tu veux me parler de vaccins, hein?
Entre autres?
Entre autres. Je viens d'avoir une super bonne nouvelle. C'est notre journaliste Joe Bernard qui vient juste dans le couloir de me dire ça. Puis il faut en parler, là. Des bonnes nouvelles, donner de l'espoir. On a besoin de ça. Je sais que souvent, ça fait plus les grosses manchettes, la controverse, puis tout, mais gars. Au moment où on se parle, les chiffres viennent tout juste de sortir. C'est tout chaud. La moitié des gens en CHSLD dans la grande région de Québec sont vaccinés à partir d'aujourd'hui. Plus de 50 %.
Super.
Ils seront tous vaccinés le 17 janvier.
Et Colin, OK?
Oui, oui. Fait que ça va.
As-tu rendu une pilule?
Ça va. C'est rapide. Ça va bien. Regarde, si ça allait pas bien, quand ça va pas bien, on le dit.
Oui, oui.
Fait que là, apparemment qu'ils respectent les échéanciers. Ça, c'est majeur. Vous allez voir, le nombre de décès va finir par baisser parce que
exact.
C'est vraiment là, dans les CHSLD, que sont
voilà.
Les gens les plus vulnérables.
Et voilà.
D'ici quelques jours, tous ceux de la région de Québec seront vaccinés.
Super. Super génial.
Tu voulais me parler un peu de ça?
Ben, t'en as parlé un petit peu tantôt. J'ai trouvé ça, c'est que ton idée est excellente. C'est comme, là, il y a des gens encore pour ou contre le vaccin, telle affaire, blablabla. Mais si on disait, pour aller au festival d'été, il faut que tu sois vacciné. Ah, ben là, tabarouette! Puis c'est quand même fascinant parce que, moi, j'ai pris une nouvelle. Les lignes aériennes aux États-Unis vont imposer à partir du 17 février la preuve de vaccination pour embarquer dans un avion. Point barre. Si tu embarques dans un avion pour faire un vol à l'extérieur ou si tu arrives aux États-Unis, ça prend ça. Puis tu sens personne qui chiale. C'est tout. C'est comment ça se fait que si c'est une entreprise privée, c'est correct, mais si c'est le gouvernement, ça porte à rébellion. C'est un peu hallucinant.
Je pense que les gens... C'est la grande différence entre la théorie puis la pratique. Tu sais, aller sur Facebook puis écrire « Moi, je crois pas au vaccin » puis dire « Ah, oh, ben finalement, je renonce puis je renonce à mes vacances dans le Sud », c'est autre chose.
Je sais pas. En tout cas, je trouve ça assez spécial. Mais moi, à la lumière de ça, je veux vous amener une observation. Je peux pas vous garantir que c'est la mort officielle de ce projet-là, mais je veux juste qu'on se projette un petit peu. Moi, je t'ai dit, ça m'intéresse plus tant que ça, là, je regarde tout le temps en avant. Que tu sois ultra-complotiste, que tu aies des réticences sur les mesures du gouvernement concernant la gestion du virus, ou que tu suives aveuglément, peu importe où, peu importe si tu es dans quel camp, on va appeler, OK?
Ouais, ouais.
Imagine, là, tout ce qui se passe de un dit ça, l'autre dit ça, l'autre n'est pas content, là. Vois tout ce qui se passe, peu importe dans quel camp que tu es, et remplace COVID-19 par indépendance du Québec. Fais juste imaginer, quand il y a un virus qui est un problème commun partout sur la Terre, pas une question d'opinion, qu'est-ce qu'on devrait faire. Ça, c'est comment on y réagit.
Oui.
Le problème est commun à tous. Regarde ce qui se passe entre nous. Et imagine que le Québec vote oui à 54 % au référendum. Imagine la suite. Tu vas avoir... Imagine les complots. C'est-à-dire que là, on sait bien, le gouvernement en place est de connivence avec l'ONU pour faire en sorte que les Autochtones, mon vieux, juste le bout des complots, c'est x10. Ce projet-là vient de mourir sous nos yeux parce qu'il est clairement, et là, je vais reprendre les paroles d'une immense sagesse du docteur Poirier, je sais que tu en as parlé hier, ce docteur qui a été interviewé par Bernard Drainville et qui a dit plusieurs choses, dont, entre autres, la phrase que j'ai explosé de rire quand il a dit « Le gouvernement fait ce qu'il peut, mais il s'est fait fourrer par la population. » Écoute, mon gars, sérieux, là, j'ai ri comme une joke de Jean-Michel Anctil. Pas parce que j'y crois pas, parce que j'ai fait « Personne jamais en ont, nulle part, aucun animateur de la planète Terre a voulu dire que des fois, regardons ça, ce serait de la faute de monsieur, madame, tout le monde. C'est toujours de la faute des médias, des pouvoirs, la politique, telle affaire, l'ONU. » Et là, tout à coup, t'as le bon docteur, lui, qui est là-dedans, puis qui dit « Hein, le gouvernement s'est fait fourrer par la population. » C'est extraordinaire. Mais j'ai explosé de rire, parce que inévitablement, Peu importe tes allégeances, c'est pas vrai que le bon peuple a toujours raison. C'est faux, mais, là, totalement. Là.
Mais tu penses que, pour revenir juste à ton exemple sur l'indépendance, t'es en train de nous dire qu'on a vu à quel point ça s'est polarisé autour d'un sujet comme la pandémie, qui, selon toi, puis je te rejoins, aurait dû faire sans faire l'unanimité. Il y a toujours un espace de discussion. Mais il y aurait quand même dû avoir plus de solidarité face à un problème qui est mondial. T'es en train de me dire que, vu que ça fonctionne beaucoup comme ça maintenant avec les médias sociaux, tout, qu'on pourra plus avoir de débat serein comme on a eu, parce que en 95, là, ça a été oui, non, quasiment égalité. Il n'y a pas eu de violence. Il reste que ça s'est quand même bien fait, là. Il n'y a pas eu de révolte, il n'y a pas eu d'émeute.
En 95, Sylvain, dans toute ta phrase qui est intéressante, c'est le chiffre. Ouais, 95.
Mais veux-tu des médias sociaux en 95?
Ben non.
Là, on voit ce qui se passe avec Trump aux États-Unis. On peut ajouter ça à ce que tu viens de dire sur la COVID. Donc, selon toi, on ne pourra plus faire de débats sensibles ou de quoi qui est crunchy.
Voilà,
ça va exploser. Le feu va pogner tout le temps.
Tout le temps. Ça va toujours être genre un délire absolu. Il va tout le temps y avoir plein de monde qui décide que tout à coup... C'est parce que avant un débat, c'était des faits avec du monde qui sont pour, des gens qui sont contre. Puis on se disait, moi, c'est pas de même que je ferais. Comprends-tu? Là, maintenant, il n'y a plus deux camps, Sylvain. Il y a trois camps. Il y a le pour, le contre, puis j'y crois pas.
C'est bien dit. T'sais, imagine-toi,
c'est extraordinaire. Mais,
depuis tantôt que j'essaie de faire des liens sur mettons, 95 ou 80, les deux référendums qu'on a eus, j'essaie de pitcher les médias sociaux par-dessus ce qui s'est passé, là. Il y en a quand même eu des petites controverses un peu avec les Yvettes en 1980, avec le fameux rassemblement des gens du Canada anglais, là, le rassemblement où les gens venaient partout.
C'était quasiment de la poésie.
Qui nous aimait, puis que tout ça de l'extérieur. Mais imagine ça à l'ère des médias sociaux. Là, il y a quand même eu du financement un petit peu bizarre ici et là. Comment ça prendrait des proportions? René Lévesque avait été très fier que... parce que je viens de finir un livre sur lui, là. Une de ses grandes fiertés, même s'il avait perdu en 80, c'est que ça s'était passé démocratiquement.
Absolument.
L'évêque disait toujours, c'est une victoire. Le peuple québécois s'est prononcé, pas vraiment comme on le voulait, mais il s'est prononcé de façon pacifique et démocratique pour le non. Déjà ça, pour l'évêque, c'était un gain que les Québécois...
Je te prédirais pas une guerre civile. C'est pas ça que je te dis.
Non,
je te dis
juste
que le débat devient improductif. Parce que quand tu débats avec quelqu'un, faut pas oublier, là, quand tu débats avec quelqu'un, c'est une excellente occasion de prouver ton point. Moi, je me souviens, à un moment donné, un de mes amis m'avait appelé, j'étais en onde, je pense que je faisais de la ligne ouverte. Puis il m'appelle, puis il dit, comment ça se fait que, je sais pas c'était qui parlait, qui était dans le studio ou autre, puis qui te contredit, ce que tu disais c'était bon, peu importe. J'ai dit, non. J'ai dit, moi, quand quelqu'un me contredit, ça veut dire qu'il me donne la chance de répondre à quelqu'un qui pense exactement la même chose dans son auto, mais qui peut pas me parler. Ça fait que si moi je dis X, puis que quelqu'un dans son auto qui dit hey, moi je suis pas d'accord avec ça, puis que je l'entends pas, moi je continue. Je peux pas arrêter puis répondre à son objection. Ça fait qu'un débat, c'est excellent. Je veux dire, en politique, là, puis dans l'histoire, l'opposition a toujours été autant importante que le pouvoir. Tous les gouvernements qui, à un moment donné, rappelle-toi, quand j'étais à l'université, dans le temps de Brian Mulroney, il y avait eu deux mandats conservateurs de suite. Le deuxième, ça avait pété de corruption partout, parce que ça avait été un raz-de-marée. Donc tout le monde pigeait dans le plat de bonbons. C'est que l'opposition, c'est important. C'est quand tout à coup, t'as le troisième camp des crétins qui viennent dire « Non, pas moi, moi j'y crois pas, moi j'en bats non. » Quand t'as ce bout-là, le bordel pogne, ça veut dire que ça devient improductif. Combien de fois il a fallu, si on reprend la phrase du docteur Poirier, combien de fois, en secret, on le saura jamais, le gouvernement a dit « Ouais, ben là, faudrait faire attention parce que si on fait ça, eux autres vont crier. » Oui, mais eux autres quoi? Avoir tort, c'est pas une opinion.
Est-ce qu'ils ont donné trop d'importance à certains...
C'est très possible. Récalcitrants
ou tout ça. Moi, je me projette encore dans le passé, ça fait drôle, mais juste pour finir là-dessus. Tu sais, pendant la pandémie, là, je vous en ai parlé hier, mais je veux pas venir là-dessus, on se fait traiter de vendu parce que le gouvernement dit qu'il y a une pandémie, puis moi aussi, je dis qu'il y a une pandémie. Fait que pour certains, là, je suis devenu vendu, acheté par le gouvernement. Ben oui, mais si le gouvernement dit qu'il y a un feu de forêt, puis moi, je dis aussi qu'il y a un feu de forêt, c'est quoi? Je suis un vendu chaque fois. Mais ça, c'est juste la réalité. Mais imagine-toi, en 1995, à l'ère des médias sociaux, rajoute ça, là. Là, il n'y a pas juste le oui puis le non, puis mettons que tu fais des débats à la radio, comme on a fait à cette époque-là. Moi, j'étais en onde, j'étais journaliste à l'époque. Honnêtement, il n'y aurait pas juste Jean Chrétien d'un bord, puis Jean Charest, puis de l'autre bord, Jacques Parizeau ou René Lévesque. Là, George Soros serait là-dedans. Bill Gates serait là-dedans.
Ah, oui, oui.
Il serait soit non, soit oui.
Les mondialistes.
C'est un complot pour pouvoir isoler les Québécois du reste du Canada.
Il y a quoi? C'est ça que Bill Gates a son mot à dire. Les francs-maçons, George Soros et peut-être même les extraterrestres. On fait des jokes.
Tous les personnages habituels.
Tout le monde. Les gens qui n'existent pas à Sainte-Brigitte-de-la-Mer.
Ils voudraient peut-être se séparer, eux autres aussi.
On a perdu à cause de quoi? Au fond, à cause d'une ville qui n'existe pas.
On va parler de TV, on va parler d'autre chose un petit peu. Tu veux me parler de télévision?
Hey, la télé là, que le monde disait.
Les codes des codes sont sortis.
Tabarouette. Écoute, je vous l'ai dit, là, okay, tranquillement. Là. District 31, ça, je vous lis l'article du Gaudumont de la presse. District 31 a poursuivi sa domination du palmarès d'écoute du lundi soir avec 1 573 000. L'échappée, je ne sais même pas c'est quoi, 906 000. Une autre histoire, 825. La première de Big Brother est regardée par 590 000 personnes, ce qui dépasse les chiffres d'occupation double au même stade. Donc, quand il commençait. Et la grosse affaire que j'ai faite, La Tour avec Patrick Huard.
Oui.
761 000.
Moi aussi, énorme, j'étais surprise de ça, oui.
Chiffre en tabarouette. Là.
Vraiment.
Et moi, je veux juste souligner mon analyse de tout ça, c'est que, sérieusement, là, c'était quasiment comme quand on disait, ah, les vidéos VHS vont tuer le cinéma, puis ça fait 25 ans qu'on dit ça. S'il y a de quoi qui tue le cinéma, ça va être le virus. Ce sera certainement pas parce que le monde y allait plus. Et moi, la télé, ce que je vois, c'est qu'elle s'est extrêmement bien virée de bord. Parce que ce qui a fait mal à la télé, c'est deux affaires. C'est le streaming comme Netflix, mais pas que. C'est aussi YouTube, pour les plus jeunes.
C'est vrai.
Puis la télé ne peut pas répondre à YouTube. Ils n'ont pas les outils de répondre à YouTube, dans le sens que YouTube, le contenu, il y a une expression d'ailleurs dans le business, on dit « user-generated content ». Ça veut dire que c'est l'utilisateur qui génère le contenu. YouTube produit à peu près rien. Pendant des années, ils n'ont rien produit. C'était juste comme une plateforme. Et TVA ne peut pas faire ça. Je veux dire, il pourrait, mais c'est comme ça ne marche pas en tout. Ça fait qu'il était avec une compétition un peu déloyale. C'est pas juste, ah, oh, je l'écoute quand je veux. Non. C'est que tout à coup, il y a plein de jeunes crinqués avec leur téléphone qui font du contenu qui peut rejoindre des millions de personnes. Les YouTubers français qui n'ont pas notre marché, sont 70 millions, bien, il y en a, là. Ils font une vidéo par semaine, par jour, peu importe. Puis c'est 2, 3, 4 millions, Sylvain. C'est hot dans ta barouette. Ouais. Ils font un petit peu de montage, mais mettent ça rigolo, mais ils sont seuls au combat avec son laptop. Ça fait que tout ça a amené les producteurs télé puis les télédiffuseurs au Québec comme partout à réagir. Et je vois qu'ils réagissent bien. Je trouve ça bon de voir ça. Je suis vraiment impressionné parce que c'est trop facile de dire « Ah, oh, moi, j'écoute pas la TV, blablabla. » Mais la réalité,
On a joué là-dedans, Marc. Puis il y a une tendance, quand arrive une technologie, de certaines personnes à vouloir en faire disparaître d'autres. On aime ça, envoyer du monde au cimetière puis enterrer. La radio s'est fait enterrer beaucoup, là. On s'est fait enterrer par la télé, par le cinéma. S'est fait enterrer par les Walkman. Là, c'est les podcasts, etc. À tout bout de champ, la radio se fait tuer. Puis elle est encore là. Oui. Puis quand j'entends, ouais, mais les jeunes... Mais bon, vous annoncez que dans mon temps, quand j'étais jeune, je l'écoutais pas même bien, la radio. La radio a jamais été un média hyper populaire chez les jeunes, vraiment. C'est vrai. Qu'on a perdu un petit peu des plumes, on est encore. T'es encore un média fort. Pareil pour la TV ou etc. Mais je sais pas pourquoi. C'est une tendance quand surtout c'est les. Quand t'adoptes une nouvelle technologie, il y en a qui ont besoin d'en faire disparaître d'autres. C'est ça, puis le reste, c'est fini, mais... c'est out. C'est...
OK, mais il reste que c'est pas tout le monde qui réagit bien. Je peux pas dire que la radio réagit aussi bien que la télé, tant qu'à moi. Parce que c'est très spécial ce que tu vois. Puis en télé, l'autre affaire aussi, c'est qu'il y a beaucoup plus de compétition. C'est-à-dire que si Canal Vie, qui est une toute petite chaîne, arrive avec une très bonne émission, elle va quand même donner le ton à TVA par Radio-Can, tu comprends? Ça fait qu'ils sont plusieurs joueurs où est-ce qu'ils peuvent dynamiser l'offre et la demande. C'est que moi, je trouve ça très intéressant.
Pas tu n'as pas autant confiance en la radio?
Je pense que non, je fais juste observer que l'ennemi de la télé, c'est Netflix et YouTube. L'ennemi de la radio, c'est les podcasts. Mais la radio n'y répond pas autant que je vois la télé répondre à ses ennemis.
Ah, OK, ouais.
Moi, je comprends. C'est ça que je veux dire. On est peut-être en retard un peu. Remarque, moi, je n'ai que moi à blâmer, là. Je suis pas fort là-dessus. Puis mais j'y pense, là. Ça commence à trotter dans ma tête un peu parce que ça fait une couple de taxis avant la pandémie que je prends, là. Puis quand je prends un taxi, je dois pas être le seul gars de radio à faire ça. Je check le chauffeur, ce qu'il écoute. Ben oui. Puis quand
tout
il écoute un autre poste,
c'est ça m'a souhaité. Moi aussi, pourquoi t'écoutes ça? T'écoutes quoi? Moi, j'arrête pas.
C'est bien correct, mais évidemment, quand il est chez nous, je suis content. Puis là, je lui demande un peu ce qu'il écoute. Puis bon, ça nous permet d'espionner.
Excellente étude de marché. Ouais.
Voilà. Et dans la dernière année, dans le temps qu'on prenait le taxi encore, là, je le fort plus, je suis tombé sur pas mal de chauffeurs qui écoutaient quoi? Des podcasts.
Ouais.
Ben je me souviens encore du premier. Excuse-moi, quel poste t'écoutes? J'essaie de voir un peu. Là, tu sais, tu t'étires le nez sur la radio un peu. Oh, je suis en train d'écouter le podcast de Joe Rogan, évidemment, qui est hyper populaire. Ça a donné que c'était lui. Ah, OK, ouais, pas beaucoup de radio. Non, je préfère les podcasts. Je download ça parce que je fais ma run de taxi puis j'écoute ce que je veux. Ah. Et à ce moment-là, je me souviens d'être sorti en disant voilà le cas isolé. Tu sais. Mais cette expérience-là s'est reproduite. J'ai repogné d'autres chauffeurs que podcast. Ouais, puis j'en connais des jeunes. Donc, mais c'est pas négatif, ils sont encore intéressés de se faire raconter
c'est du contenu
audio. C'est juste qu'il va falloir peut-être que
c'est facile migrer du c'est-à-dire que comme tu le dis, raconter une histoire en ondes, en direct, c'est pas difficile de migrer en faisant la même chose pas en direct, c'est pas le virage est peut-être moi je trouve Marc, par contre, que tu as peut-être raison que la radio tarde plus à répondre à ses rivaux principaux, mais je pense que la réponse est peut-être moins difficile à mettre en action. C'est-à-dire que j'ai pu faire un podcast, possible. Tu le sais, là, voilà, on a toujours juste besoin d'un micro puis de sa voix.
C'est tout. Oui, je suis bien d'accord. Mais c'est pour ça que
ce qu'on offre, là, puis c'est pas mauvais, là, si vous allez sur fm93.com, d'ailleurs, je vous invite à le faire, vous pouvez réécouter en podcast, par exemple, la chronique de Marc Boilard.
Absolument.
Mais honnêtement, ce qu'on offre présentement comme produit, c'est la reprise de ce que je fais en ondes.
C'est ça.
Mais je les mets en podcast pour répondre à des gens le soir, etc. Pourquoi je ne ferais pas, moi, exemple? Les auditeurs m'ont déjà dit, parce qu'avec le podcast, tu peux être plus ciblé.
Oui.
Vous savez comment j'aime parler d'histoire? Mais je ne commencerai pas à en parler à tous les jours, parce que c'est pas tout le monde qui aime ça. De temps en temps, je vous parle un peu de la Seconde Guerre mondiale. Qu'est-ce qui m'empêcherait de faire un podcast de 2 heures? Puis là, je dis 2 heures, je n'exagère pas, parce que
le
monde écoute des podcasts d'1 heure, 1 heure et demie, 2 heures.
Ah oui, ça peut être très long, là.
Je m'assois avec un historien, quelqu'un qui est passionné, ou pas un historien, ça peut être quelqu'un d'amateur, qui tripe sa Seconde Guerre mondiale aussi. Mettons, Gérard Deltel, le député conservateur.
Maniaque de ça.
Bon, souvent, quand je parle de ça, il me répond, puis il m'écrit. Absolument. Bon, je m'assois avec lui, je fais 2 heures sur la Seconde Guerre mondiale. À mon avis, il y a du monde qui m'a écouté.
C'est clair, certain.
Puis je mets ça sur la même plateforme. Je concurrence pas FM93.com. Il y a une petite rubrique.
Absolument.
Et là, c'est Jean-Simon Buy qui parle de Donjons et Dragons. Ou Sylvain qui parle de... Ou Marc Boilard qui...
Mais t'as plus de liberté.
Je pense que la prochaine étape, c'est peut-être ça. Abattre nos podcasts, c'est essentiellement ce qu'on fait en ondes. C'est juste ça, là.
Puis la plateforme.
C'est bon.
Mais oui, c'est correct.
C'est pas supposé être exclusivement ça. C'est juste ça.
C'est la plateforme de podcast aussi, ça a fait en sorte que, tu sais, nous, à la radio, on est régi quand même par certaines règles au niveau du contenu, au niveau de ce qu'on peut dire. Et là, je parle pas de ligne éditoriale, mais je parle de sujets, par exemple, ou de sacres, ou de, tu comprends ce que je veux dire?
Oui.
Mais sur les podcasts, il n'y a pas de règlement. En tant que tel, tu peux dire un peu ce que tu veux. Puis moi, ma grande surprise, c'est qu'un des podcasts les plus populaires présentement, c'est un podcast qui s'appelle Call Her Daddy, qui parle de sexe dans une vulgarité qui n'a aucun maudit bon sens. Mais ce podcast-là est un des plus populaires, toutes plateformes confondues dans le monde présentement.
Puis toi, Ellie, c'est ça que tu aimerais faire. Je pense, je pense que
jamais de la vie.
Parler de sexe sans tabou.
Je te connais bien. Là,
jamais.
C'est ça que t'aimerais.
Mais le pire, Sylvain, c'est que tu mets ce podcast-là au FM 93 puis ça ne pognera pas autant. Parce que ce n'est pas... J'ai l'impression que les auditeurs de la radio n'ont pas 100% migré vers le podcast encore et l'inverse aussi est vrai.
Non, mais par contre...
Le but, c'est de faire un pont.
Oui.
Moi, si je fais 2 heures sur la Seconde Guerre mondiale en ondes, là, mon boss va venir me voir, pas parce que j'ai dit quoi que... Pour dire, tu peux pas faire ça, Sylvain, on est un mass-média, on s'adresse à tout le monde. Là, tu l'as échappé. Faut qu'il y ait plus. Bon, mais je veux même pas le faire. Dans un podcast, vu que je m'adresse à une clientèle plus spécialisée, je peux faire 2 heures sur le même sujet.
Absolument.
Puis ça va pogner. Ou Ellie, tu vas nous parler de quelque chose qui t'intéresse, tu vas être bonne.
Je veux pas parler de sexe en passant, c'est pas ça que je dis. Je voulais juste démontrer que...
Les gens veulent le podcast.
Ah, beaucoup de gens veulent ton podcast.
Beaucoup de gens veulent le podcast.
Les clins d'œil, Ellie. Comme je veux pas parler de sexe. Mais je vais vous amener ailleurs.
Ah oui, donc?
Le problème précis, là, c'est exactement l'inverse.
Alors, comment ça?
Le problème précis, c'est pas que dans un podcast, tu peux... Puis là, vous allez pas aimer ce que je vais vous dire. Le problème, c'est pas que dans un podcast, tu peux te permettre de parler 2 heures d'un même sujet que tu as à faire. Ça, c'est vrai que c'est un plus, mais c'est pas le problème. Le problème, c'est que depuis trop longtemps, on n'est pas au courant de sujets qu'on véhicule d'une émission à l'autre en se disant que les gens aiment ça, puis c'est pas vrai. Exemple, le tramway. Moi, m'a dire de quoi, là. La vraie clientèle qui aime ça entendre parler du tramway, là, c'est une infime minorité, mais on s'est tout fait à croire entre nous autres que, hey, cabarouette, hey, là, les textos rentrent, puis tout, puis que le tramway. Mais dans la vraie vie, je peux-tu te dire de quoi? Puis je vais te l'illustrer avec un autre exemple. Si jamais on avait parlé de tramway, là, le code d'écoute qui manquerait au FM 93, zéro. Zéro code d'écoute de moins. Et je vais te montrer exactement pourquoi je te dis ça. Ça fait combien d'années que à Québec, presque au complet, dans les radios parlées, puis au FM 91 en particulier, il n'y a plus personne d'attitré à art et spectacle.
Ben, ça fait un petit bout. Ouais. Tu me demandes s'il y a eu quelqu'un ici temps plein art et spectacle au 93?
Ben, je n'ai pas connu ça. C'est sa
job d'être chroniqueuse, chroniqueur de art et spectacle.
Dans toutes les émissions à La Défense, honnêtement, je me souviens dans le show à Gilles, dans le temps, dans le mien aussi, on parlait d'art et spectacle. Mais là, tu me demandes s'il y a une ressource temps plein. La réponse est non.
Ici, à Québec, non. Ailleurs, au Québec, il en reste encore.
Partout,
là, mais,
partout. Il n'y a pas une ville, même à Sherbrooke, c'est pas à cause que c'est une question de moyens. C'est dans... Le réflexe normal de dire, on fait-tu un show du matin? OK. Un animateur, un ghost par, la fille en spectacle. OK, après ça, on fait quoi?
C'est une fille, c'est vrai?
Oui. Comme si c'était une formule, genre des céréales, c'est du lait, des chérioses, là, tu sais. Ça marche demain. Non. Non. La preuve, c'est que c'est tombé au combat. Parce que dans la vraie vie, ça intéressait pas tant les animateurs. Puis, quel auditeur nous a dit un jour, vous n'avez pas parlé de l'ancien, le dernier album de Marie-Mé, puis vous n'avez pas fait une étième critique du dernier show du festival d'été. Ça me manque beaucoup. Zéro, zéro. C'est tombé tout seul. Ça fait que je m'excuse, mais il y a plein de sujets que tout à coup, on pense qu'ils sont donc hot, puis dans la vraie vie, le monde, il s'en claque. Mais on leur serre, puis on leur resserre, puis on leur resserre. Ça fait que ça aussi...
Puis dans les podcasts, tu penses que les gens sont plus connectés? Parce que là, ce que tu dis là, tu disais, vous aimeriez pas ça. Moi, je me sens attaqué un peu, là, mais je le prends. Moi, j'aime qu'on débatte. Je suis un de ceux qui a parlé beaucoup du tramway. Tu me dis, les gens n'ont rien à foutre. Ben, pas rien à foutre, mais ils s'intéressent pas à ça autant qu'on pense. Bon, je réfléchis à ça. Je suis pas certain. Mais tu penses, mais pourquoi les gens sur le podcast seraient plus connectés sur les besoins des gens que dans les médias traditionnels?
Ils sont pas plus comme, c'est-tu quoi?
Parce qu'ils ont une plus grande liberté? Parce qu'on me l'impose pas, moi.
Absolument. Je suis bien d'accord avec toi. C'est pas qu'ils sont plus connectés. C'est que t'as 1 milliard de choix d'aller choisir le sujet que tu veux. Ce que ça revient à dire, c'est que le défi qu'on a, nous autres, c'est qu'est-ce qui va interpeller le monde pendant le temps que j'ai d'allouer, sachant, comme tu l'as très bien dit, qu'il faut être généraliste. On peut pas arriver 4 heures de temps sur un sujet. Il y a quelque chose là-dedans qui marche pas. Ça fait qu'il faut essayer de... Bon, mais moi, je dis que pour toutes sortes de réflexes, et des observations. Je sors un peu de notre gang, puis je regarde. Je suis convaincu qu'on a traité de plein de sujets, pensant que c'était le genre, oh mon Dieu, vite, parlez-moi-en, puis encore... puis que c'est pas vrai, puis on était comme...
Mais pourtant, Marc, j'ai quand même des arguments, là. Tu sais, de temps en temps, on va au restaurant, on se connaît, là, tu sais, tout ça, avec des amis. Il me semble qu'on parle toujours du tramway quand on est au restaurant avec nos amis. Non, c'est vrai.
Mais le
donner des arguments aux gens qui sont contre moi. T'sais, une passe à la palette, puis ah oui, go!
Mais l'image du restaurant, t'as tellement raison, je trouve tellement... que quand on décide de qu'est-ce qui est d'intérêt, c'est de regarder nos propres affaires. Moi, là, comme ça me dépasse. À chaque fois qu'on a un souper où il y a plusieurs personnes, vous remarquerez. Si vous ne voulez pas remarquer, je vous jure, je vous en conjure, un jour, on va refaire des soupers à gang. Là.
Oui.
Ça prend 60 minutes. Mettons un souper de 3 heures, ça prend 60 minutes, puis on parle de séries télévision. La dernière affaire sur Netflix.
C'est vrai.
C'est hallucinant. Or, combien de fois on parle de télévision à notre émission?
Ben, une fois de temps en temps, on le fait quand même.
On le fait assez régulièrement, mais je comprends où tu veux en venir.
Mais pas si régulièrement que ça, par exemple, je veux dire. Il y a des semaines complètes où on n'en parlera pas pantoute, mettons.
C'est sûr. Ouais, mais il y a peut-être un petit examen de conscience à faire. Merci, Marc. Merci.
Hey, à demain.
Fort à demain, 15h29. Ben, j'appelle ça fait réfléchir un peu. Est-ce qu'on a tendance à prendre des sujets parce qu'on est confortable là-dedans, on en parlait un petit peu trop, puis
plus à la télé que dans les médias écrits, j'ai tendance à croire, parce que moi aussi, je pense qu'il y a une pertinence de parler des réseaux de transport en commun, parce que tu vas jamais m'enlever de l'idée qu'il y a des enjeux de société qui sont importants. Par contre, tu sais, cette espèce de déconnexion-là, on la voit tous les jours dans les journaux puis à la télé. Ça, je le constate beaucoup. Là. Les sujets qui sont abordés par les journalistes dans leurs articles, tout ça, je me dis, ça c'est clair.
Ne sont pas les préoccupations quotidiennes
des
gens.
Ça, j'ai aucun doute là-dessus. Maintenant, sur nous autres, c'est parce qu'on... Je pense qu'à la radio, quand même, il y a un pas de plus qui est fait pour se dire, OK, vraiment, là, de quoi les gens parlent en ce moment. Ce qui n'est pas nécessairement le cas, j'ai l'impression, dans les autres médias. Mais c'est vrai que la formule du podcast, parce que t'sais, à la radio, comme on est présentement, on tire au shotgun. Prends une métaphore Call of Duty. Là, un shotgun, c'est de proche, puis ça ratisse large. Fait que tu peux tirer 3-4 personnes en même temps. Quand tu fais un podcast, tu fais du sniper. T'sais, moi, j'ai des projets personnels présentement où est-ce que je vais vraiment chercher une crowd là,
mais nous, on peut pas faire
ultra précise. Tu peux pas faire ça.
Ouais.
Mais Puis ça, je maintiens parce que je vais être positif pour ça. Ce qui est très simple avec le podcast pour nous autres, c'est que ça migre facilement. Tu sais, il y a rien qui empêche, comme tu l'as dit, de faire un podcast sur l'histoire, de trouver un angle original, quelque chose qui te passionne toi.
Ce qui est le fun, c'est que si jamais c'est bon, je peux à la limite tomber sur une couple de personnes en France qui vont écouter ça.
Absolument. Parce et je peux t'en parler parce que moi, ça m'arrive.
Ils sont 70 ben oui. millions en France. Ben oui. J'ai pas besoin de beaucoup qui trippent sur la Seconde Guerre mondiale. Mm-hmm. Peut-être que le podcast qu'elle m'a fait avec quelqu'un va se ramasser là-bas. Puis
la francophonie, c'est 150 millions de personnes. Puis
c'est du monde, là.
Quand tu regardes l'offre podcast au Québec, qui est très, très basse, il y a pas beaucoup de choses. Il y en a des très, très bons qui pognent, mais quand tu regardes par rapport à la France, par exemple.
On est en retard.
On est en retard. Et
à mon avis, il y en a un de payant.
Ah, c'est sûr.
Oui, c'est
sûr.
Celui 1.
Tu parles qu'il y en a juste un? OK.
De payant, à mon avis. Ward. À mon avis, Mike Ward. Parce qu'il l'a dit, mais ça a été long, Mike. Mais il l'a raconté, là. Je suis pas sûr que je veux pas savoir exactement tous ses revenus. Mais je pense que Mike a dit qu'il était maintenant rentable.
Oui.
À part lui, il y en a d'autres, des bombes, des intéressants. Mais je suis pas sûr qu'à part Mike Ward, il y a quelqu'un d'autre qui fait de l'argent avec des podcasts.
Il a travaillé fort, Mike. C'est
ça. Il a travaillé aussi en maudit.
Il était backé par des revenus autres aussi qui lui permettaient d'être déficitaire pendant longtemps. Oui,
mais c'est possible. Puis il y a des niches. Ils sont toutes là. Les niches ne sont pas exploitées. C'est incroyable dans tous les domaines.
15h31, OFM 93.
La chronique de Marc Boilard, présentée par le groupe Saillant et ses 5 concessions. Option Subaru, Laurier Mazda, 5 fois Toyota, 5 fois Hyundai et Saillant Autocrédit.